Quand il y a autant d'enjeux, que l'erreur n'est plus une option, quand son destin se joue sur un match, qu'il ne reste plus que quelques marches à gravir pour atteindre le sommet de l'Europe, le football devient encore plus intense. Retrouvez les demi-finales retour de l'UEFA Champions League avec Paris SG Dortmund, mardi à 21h sur Canal Plus Foot et Real Madrid Bayern, mercredi à 21h sur Canal Plus et Canal Plus Foot. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com.
Vous écoutez
RMC. RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
De retour dans les grandes gueules du sport, votre rendez-vous le samedi, le dimanche de 9h à midi, 11h07, heure française, 13h07, heure qatari. Merci à tous de votre fidélité. C'est le grand jour, l'ouverture de la Coupe du Monde, Qatar-Équateur, à 17h, RMC radio officielle de cette Coupe du Monde de la FIFA 2022, 300 heures de direct dédié au Mondial. Tous les matchs commentés à partir d'aujourd'hui jusqu'au jour de la finale, 18 décembre prochain. Nous allons bouleverser notre grille, dispositif exceptionnel avec un studio délocalisé au cœur de Doha. Évidemment, toutes les personnalités d'RMC sont au Qatar pour vous faire vivre au plus près cette Coupe du Monde. Vous allez suivre les 64 matchs de la compétition. Vous allez voir, cette Coupe du Monde va être magnifique. On le souhaite en tout cas. D'ailleurs, ce sera l'objet de notre débat dans quelques instants. Ce Mondial sera-t-il forcément une fête? C'est notre bras de fer. Vous n'êtes pas d'accord? Les GG, toujours avec Marion Bartoli, Pascal Duprat, Marc Madio et Jean-Louis Tour, notre GG en direct de Doha, qui fait son apparition de nouveau, tel Beetlejuice. Salut, rebonjour Jean-Louis. Jean-Louis une fois.
Jean-Louis une fois.
Jean-Louis deux fois. Jean-Louis viré.
Non. Il a repris des frites à la cantine. Non, ça lui prend 8 ans.
Jean-Louis, tout va bien.
Oui, tout va bien.
Alors, fais-nous partager ton quotidien, Jean-Louis. Qu'est-ce que tu as mangé ce midi? Comment ça s'est passé?
Non, mais il est 13h déjà, donc j'ai pas eu le temps de manger. Si c'est ça la question intéressante. Non, en revanche, je suis dans le studio là. Inauguration du studio de Doha. Donc voilà, ça fonctionne bien. Du deuxième coup, mais en tout cas voilà, on sera là pour toutes les émissions en direct de Doha.
Beau studio, comment ça?
Sur la corniche, ouais, non, c'est très sympa. On est très bien, on est comme à la maison.
Je rappelle qu'il est pas à Monaco, hein. Il parle de corniche, mais il y a aussi une corniche à Doha, les copains. Hein. On est bien là-bas au Qatar.
On ne se refuse rien.
Mais bien sûr, 11h30, c'était mieux avant. Christophe Cessieux n'est pas là, mais il nous a laissé son bonbon du dimanche aujourd'hui. Les Bleus en Argentine pour la Coupe du Monde 78. Ça va nous rappeler de beaux souvenirs. Alors, une information très importante à vous donner avant le bras de fer des GG. Vous le savez, on en parle depuis 9h ce matin. Karim Benzema est forfait pour la Coupe du Monde. Il est déjà parti ce matin direction Madrid, évidemment, pour récupérer et pour être de nouveau disponible avec son club après la Coupe du Monde. Chez nos confrères de TF1, dans l'émission Téléfoot, la question lui a été posée. Est-ce que Karim Benzema sera remplacé? Didier Deschamps a répondu non. Rapidement, je voudrais avoir votre avis sur ce nom de Didier Deschamps. Donc, Karim Benzema, c'est l'information, ne sera pas remplacé. Jean-Louis Tour.
De me dire qu'on a la possibilité d'avoir 26 joueurs sélectionnés, qu'on va faire la Coupe du Monde à 25. On a tellement entendu des entraîneurs se plaindre parfois d'être un peu bloqués dans le nombre de changements, dans le nombre de joueurs à sélectionner. Alors, Deschamps, bon, le connaissant, c'est un peu moins étonnant parce que il a parlé de cette difficulté d'avoir autant de joueurs qui ne jouent pas, ou donc du coup qui ne sont pas concernés directement, et pour l'équilibre du vestiaire et de l'équipe de France, c'est un peu compliqué. Mais voilà, moi j'aurais bien pris quelqu'un d'autre, quelqu'un qui sera très content d'être là, qui aurait posé aucun problème. Je pense qu'il y avait plusieurs profils disponibles.
D'accord, on reparle pas de Jonathan Clauss, hein, c'était pas envisagé, hein, évidemment. Pascal Duprat.
On va faire confiance en Didier Deschamps. On a raison de lui faire confiance. Il a décidé, il a les tenants et les aboutissants. Il se prive d'une possibilité, d'un joueur supplémentaire. Donc voilà, faisons-lui confiance. Il a ses arguments, nous ne les avons pas.
Ok, moi j'imagine tous les attaquants qui se sont dit, pas forcément réjouis du forfait de Benzema, mais ils se sont dit, c'est peut-être ma chance. Et puis en fait, c'est la douche froide dès ce matin. Marion Bartoli.
Oui, on a une pensée pour Ben Yedder qui devait certainement se dire « Tiens, c'est peut-être ma chance !» Et ben non. Mais effectivement, connaissant Didier, il a certainement créé un groupe, créé déjà quelque chose. Il n'a pas envie de rajouter un élément supplémentaire, devoir gérer un élément supplémentaire. Je pense que c'est plus dans la gestion des hommes, dans la gestion de l'humain, que dans la possibilité d'avoir effectivement une option supplémentaire. Et j'espère pour lui qu'il aura raison. Et j'espère qu'on va vraiment pas se retrouver dans le cas où à un poste, il va nous manquer un joueur. Ça, j'espère vraiment pas. Parce que là, tout le monde va lui tomber dessus. Donc, on va voir. Faisons confiance à Didier, comme le dit Pascal. Et j'espère vraiment qu'il aura raison.
C'est l'information de cette matinée. Karim Benzema ne sera donc pas remplacé, Marc Madio ?
Non, moi je pense que Deschamps est pragmatique et on doit lui faire confiance.
Ok, donc tout le monde fait confiance à Didier Deschamps, c'est parfait. Les copains, le monde des bisounours.
Là, j'ai l'impression que tu laisses sous-entendre quelque chose là.
Non, pas du tout. Vous êtes content quoi qu'il arrive. Donc Benzema qui est pas là, c'était pas une catastrophe. Voilà. Non, mais il y a aucun souci.
Moi, j'ai dit que c'était une catastrophe.
Oui, merci.
Après, comment ça changer mes propos hein.
Merci Marion. Si vous voulez réécouter ce débat, c'était à 9h ce matin. Vous allez évidemment nous podcaster donc l'information. Je vous la rappelle, chers auditeurs, Karim Benzema ne sera pas remplacé. Attention, maintenant les artistes entrent dans l'arène. C'est donc le coup d'envoi de la 22e Coupe du Monde de l'histoire. Ce coup d'envoi sera donné à 17h avec ce match d'ouverture. Qatar, Équateur, un pays hôte dans la tourmente, vous le savez depuis plusieurs mois, où les polémiques ont du mal à laisser une véritable place au jeu. Ce mondial sera-t-il forcément une fête ? Dans le coin fête, Pascal Duprat, Marion Bartoli, Marc Madio. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas de vous.
Ça va cogner.
On va renommer cette émission Les Grandes Gueules par les Grands Flancs. Ça va être génial. Dans le coin droit, la team, pas forcément une fête. Jean-Louis Tour, pour son premier bras de fer DGG, sera tout seul.
Il est pas bien.
Ouais. T'as mis casse, l'armure, tout.
On lui fait confiance. C'est le bras de fer DGG.
À votre avis, c'est qui le plus fort, l'hippopotame ou l'éléphant ?
RMC.
Les grandes gueules du sport.
Le bras de fer GG.
Vraiment, t'es sûr que l'éléphant, il est plus fort que l'hippopotame ?
Avant de débattre, on retrouve notre journaliste RMC Sport, Nicolas Pelletier, l'un de nos envoyés spéciaux. Salut Nicolas.
Salut les GG, salut à tous.
Alors ce mondial va commencer, mais les polémiques continuent.
Oui, c'est une Coupe du Monde bien particulière qui s'ouvre ce soir, marquée en amont par les critiques, les analyses et les reportages d'investigation. Jamais un mondial n'avait été aussi épié et commenté, explique une proche du comité d'organisation. Les polémiques continuent, tout d'abord sur la bière, alors que tout était prêt depuis plusieurs mois dans les 8 stades du mondial pour la consommation de bière. Depuis quelques jours, le discours avait changé sur ce thème du côté du comité suprême. Avant l'annonce officielle, vendredi, plus de bière dans les stades. Les supporters devront donc se rabattre sur les hôtels et les fanzones. Et pour Gianni Infantino, le patron de la FIFA, les supporters peuvent rester 3 heures sans boire d'alcool. En tout cas, depuis cet épisode, les tensions sont vives entre la FIFA et ses sponsors. Puis vient ensuite la polémique des fan leaders, ces supporters chargés de mettre l'ambiance autour des sélections. Ils devaient être défrayés pour leur déplacement au Qatar, sauf qu'il y a quelques heures, ces fans ont appris qu'ils ne seraient pas payés. Un coup de massue pour ces supporters. Une polémique est aussi en train de monter au Qatar, c'est sur la gestion des flux. L'ouverture de la fan zone hier en plein centre de Doha a entraîné plusieurs problèmes avec de longues files d'attente, avec des caméras de télévision internationale à chaque coin de rue pour ce pays qui est longtemps resté fermé sur le monde. Le Qatar et les Qataris savent très bien qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur pendant ces 4 semaines.
Merci beaucoup Nicolas Pelletier pour toutes ces précisions. Ce mondial sera-t-il forcément une fête ? C'est le bras de fer des GG. Vous êtes nombreux à voter sur notre compte Twitter. Pour le moment, il n'y a pas débat. Pour le moment, pas forcément une fête, l'emporte avec 68%.
Non. Allez, salut. À tout à l'heure pour l'antenne. Allez, salut.
C'est une fête à 32%. Il va falloir beaucoup d'arguments de la part de vous trois pour tenter de renverser la vapeur. On commence forcément par vous, car vous êtes derrière. Marion Bartoli, pourquoi une fête ? Tu commences.
Allez, bon courage.
Non mais n'importe quoi, bon courage. Tu verras si l'équipe de France est en finale, tu vas pas faire la fête. Non mais ça m'énerve. En fait, c'est tellement facile de dire oui, c'est pas une fête, parce qu'effectivement il y a toutes les polémiques, etc. Sauf que quand le premier match de l'équipe de France a commencé, bien sûr qu'on va tous être derrière l'équipe de France et tout va être oublié. Ça va être la place au jeu et place au sport. Ça reste la plus grande compétition mondiale du foot, qui est le sport, un des sports les plus populaires. C'est comme les Jeux Olympiques, bien sûr que ça va être suivi. Il faut arrêter d'être hypocrite. Alors on a eu ces débats depuis des mois et des mois, alors les grands écrans ou pas les grands écrans, dans les villes ou pas dans les villes. On est en plein mois de novembre, t'imagines qu'en France, les gens, avec tout ce qui se passe et tous les problèmes, n'ont pas au moins regardé l'équipe de France avoir un peu de bonheur, un peu de joie, et que ça va pas être la fête. Bien sûr que si, ça va être la fête, et encore plus si l'équipe de France performe et arrive à aller loin. Donc ça m'énerve cette hypocrisie, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre. C'est du sport.
Qu'est-ce qu'on fait, JC? On les laisse les trois.
Tu peux y aller. Vas-y, la contradiction maintenant. Le camp, pas forcément une fête.
Là déjà, Marion apporte de l'eau à mon moulin, vous allez voir. Déjà, moi, je bloque sur le terme forcément. Est-ce que c'est forcément une fête? Pour
ben
moi,
oui.
Il faut attendre de voir et constater. Il y a des éditions de la Coupe du Monde, déjà. Pour moi, il y a deux aspects. Il y a le sportif et l'extra-sportif. Sur le sportif, il y a des éditions de la Coupe du Monde qui n'ont pas été des fêtes. Il y a des éditions qui ont été plus ou moins ratées, parce qu'il n'y avait pas de spectacle, en 90, par exemple. Il faut des belles équipes, il faut des stars qui soient bonnes, et ou des belles histoires pour des équipes collectives. Ça, déjà, sportivement, c'est un truc. Et l'autre variable d'ajustement, pour savoir si c'est la fête ou pas, c'est l'équipe de France. Marion t'en a parlé. Et là, je suis désolé, mais si l'équipe de France se fait sortir ce qu'on ne souhaite pas, eh bien, ce sera pas forcément la même fête. Donc, ce n'est pas forcément la fête. Et sur l'extra sportif, bah, moi, je suis désolé. On peut le constater de deux façons. Est-ce que les gens vont faire la fête en France? Ils vont faire la fête s'il y a l'équipe de France. Et ici, au Qatar, bah, excusez-moi, je pourrais développer un peu plus tout à l'heure si vous voulez. Mais on a un petit sentiment depuis qu'on est arrivé. D'un manque d'authenticité, de choses un peu forcées.
Oui, mais c'est parce que vous cherchez le détail. Moi, je pense qu'on va...
Non, pas du tout. Non, pas du tout. Sur les supporters, c'est pas chercher le détail. Quand on est arrivé, on a vu un groupe de supporters brésiliens, une trentaine de Brésiliens, qui étaient là, qui faisaient la fête à l'aéroport. Et moi, je suis désolé, mais il y avait un petit quelque chose qui n'allait pas. Les Brésiliens, tous là, avec le maillot parfait de la dernière édition qui vient de sortir, tous à faire la fête de la même façon, les chants bien travaillés, se filmant sur les réseaux sociaux. Je suis désolé, il y a 8 ans à la Coupe du Monde au Brésil, je n'ai jamais constaté ça. Donc, quand en plus on sait qu'il y a des supporters qui ont été payés pour venir, pour mettre l'ambiance, j'ai un peu de mal à me dire que là, c'est authentique, qu'on est en plein dans la Coupe du Monde et que ce sont des supporters brésiliens qui le sont depuis des années.
Mais j'ai envie de confondre la fête sur place à Doha et la fête dans le reste du monde.
Ça fait partie quand même, ça fait partie, Marion. La fête sur place, justement, c'est les gens qui communient ensemble, c'est le mélange des peuples, etc.
Parce que Jean-Louis était certain que cette Coupe du Monde sur place, elle ne va pas être suivie.
Non, mais être suivi, sans doute. Il va y avoir des gens qui vont être passionnés.
Tu en es sûr?
Mais non, j'en suis pas sûr, Pascal. Et j'espère me tromper. J'espère que cette mauvaise impression que j'ai depuis notre arrivée.
C'est que du ressenti.
Pascal Dutra,
je te raconte que
t'as une chance par rapport à nous, c'est que tu peux le ressentir. Tu es sur place.
Voilà. Mais justement, je te raconte ce que j'ai vu.
Si j'en crois ce que j'entends, ce que je lis en termes répressifs, fais gaffe. Le dis pas trop fort parce que si ça se trouve, demain ils vont t'embarquer.
Ça c'est possible, Pascal.
Fais attention quand même.
Non mais là où t'as pas tort, c'est que on nous incite plutôt à dire du positif de cette Coupe du Monde. Et voilà. Si vous voulez, je peux le faire. Hein, mais je préfère vous dire plutôt ce que j'ai vu et comment je l'ai ressenti.
Oui, mais moi je pense qu'on va quand même.
Merci de nous le dire. Mais par contre, nous, Pascal, en tant que sportifs avérés, passionnés de sport, comme l'a dit Marion, c'est la compétition majeure mondiale avec les Jeux Olympiques. Il se trouve que c'est tous les 4 ans. Il se trouve que là, ça se passe au Qatar. Et il se trouve, fait unique dans les annales, il se trouve que ça se passe au mois de novembre. Tout le monde me dit, c'est peut-être une contrainte, c'est pas normal. Ça a ajouté au débat. Moi, je pense que les joueurs sont frais, déjà. L'important, tu l'as dit, Jean-Louis, c'est ce qui se passe sur le terrain. C'est ce qu'on va vivre. On a des joueurs qui ont pas plus de 20 matchs depuis le début de la saison, donc qui sont frais. Malheureusement, il y a quelques blessés qui viennent contrarier ce que je viens de dire. Mais tous ceux qui vont participer à cette Coupe du Monde, ils sont pas bouillis comme c'est d'habitude le cas quand ils ont 60 matchs dans les cannes au mois de juin en fin de saison régulière. Donc on risque d'assister à un superbe spectacle. Il y a 32 nations partout dans le monde. On va être supporter de son équipe. Alors il est certain que si on entend fête en termes d'équipe de France, ben nous, avec cocardiers que nous sommes, nous espérons tous que la France va faire des résultats. Il y a aucune raison que la France n'en fasse pas. Et vous verrez qu'au fil du temps, au fur et à mesure, si la France vient à faire des résultats, eh bien, des gens vont partir à Doha pour assister au match parce qu'il restera certainement des places. Et puis nous ici, malgré le fait que, bien, démagogiquement, eh bien, il faut arrêter les écrans pour être éco-responsable. Il y aura peut-être peu d'écrans dans les villes, mais on se contentera de nos écrans.
Mais vous mettez beaucoup, parce que tu mets beaucoup de conditions quand même. Il y a beaucoup de si. Mais il y a beaucoup de si dans ce que vous dites, Marion. Écoute ta phrase. Si l'équipe de France, mais donc du coup, ce ne sera pas forcément une fête. Moi, c'est là-dessus que je bloque. Forcément une fête, c'est quoi qu'il arrive. Vous me mettez une condition si l'équipe de France va loin. Donc ce ne sera pas forcément une fête. C'est si l'équipe de France va loin.
Marc Madiou entre là.
C'est fini, je peux aller manger tranquillement.
Qu'on soit pointilleux ou pas, on va tous appuyer sur la zapette ce soir sur la bonne chaîne pour regarder le match d'ouverture, même si c'est le Qatar, dont on ne connaît pas un seul joueur, on s'en fout. On va regarder le lancement de la Coupe du Monde. Et ça va être la même chose partout en France et partout dans le monde. Tous ceux qui ont agité le petit bras pour dire oui, il y a ci, il y a ça au Qatar. Ce soir, à 17h, ils vont mettre la zapette pour voir le match. Et puis, le seul petit bémol que je mettrais quand même sur la fête, c'est que pour nous Européens, elle a lieu en période hivernale. Ça va changer un peu l'ambiance générale, parce que quand on avait une Coupe du Monde sur des périodes traditionnelles, on était dans l'été et on vivait à l'extérieur et la fête était plus communicative à travers les bars, les restaurants qui affichaient complet et qui se servaient aussi de la Coupe du Monde. Là, ça va être un peu plus difficile à ce niveau-là, et encore que, comme on a le réchauffement climatique, on peut avoir de belles journées pour certains matchs.
Ok, je reprends la main, les copains, c'est la pause de ce bras de fer. Il reste encore 5 minutes. Gardez quelques arguments pour tenter, soit pour Jean-Louis de mettre KO ses adversaires, soit pour les trois adversaires.
C'est pas déjà fait. Ah bon, d'accord.
De massacrer notre ami Jean-Louis Tour. Alors sachez qu'il y a quelques instants, nous étions partis à 68%, pas forcément une fête. 32%, une fête. Ça a évolué. Et dans votre sens, Marc, Pascal et Marion,
mais c'est une évidence.
Nous sommes désormais à 33%. Pour une fête, 67%, pas une fête. On poursuit le débat, peut-être avec cette interrogation, parce que moi je vous suis, Pascal, Marc et Marion, je vous suis sur le côté, une fois que la compétition commence, on n'en parlera plus de toutes ces polémiques. J'ai quand même l'impression, et là je rejoins Jean-Louis Tour, j'ai quand même l'impression que pour une fois, bah, ça va pas se passer comme ça. On a la sensation que pour les Jeux Olympiques de Pékin, par exemple, en 2008, oui, on en a énormément parlé, des droits de l'homme, des logements qui ont été détruits pour construire un village olympique. Oui, on en a beaucoup parlé. Et dès que ça a commencé, on s'est concentré sur les JO. Oui. Mais je sais pas pourquoi, sur cette édition, mais peut-être que vous n'avez pas le même ressenti, sur cette édition, bah, le moindre petit truc de travers va être sujet à polémique.
Alors, à côté du foot. Tu l'as dit justement, le Qatar va faire extrêmement attention qu'il n'y ait pas de problème avec les fans. Ils sont bien évidemment totalement au courant de l'image pour l'instant qu'ils ont sur les pays occidentaux et d'effectivement tous les griefs qu'on est en train d'énumérer envers leur pays, leurs lois et leurs coutumes. Donc ils sont totalement au courant de ça. Ils vont faire extrêmement attention qu'au contraire tout se passe bien, que les fans aient la meilleure expérience possible et que le pays soit le plus mis en avant possible. C'est évident et ça coule de source. Pour l'instant, la France est dans le top 3 des favoris avec le Brésil et l'Angleterre. Mais j'ai imaginé si le Brésil remporte la Coupe du Monde avec Neymar, qu'ils vont pas faire la fête au Brésil. Enfin, je veux dire, on est en train de se focaliser uniquement sur le Qatar. Le Qatar est un tout petit pays.
Ouais, c'est bien son problème.
La même capacité que, par exemple, effectivement, les pays hôtes et les pays qui ont accueilli la Coupe du Monde auparavant. Donc, déjà, on part sur des proportions qui sont totalement différentes. Moi, je regarde la fête dans sa globalité, dans son ensemble. Les pays qui vont suivre leur équipe nationale vont bien évidemment faire la fête s'ils arrivent à remporter la Coupe du Monde. Ça me paraît logique. Après, faut pas uniquement rester focalisé sur le pays hôte et qui accueille cet événement.
Moi, je pense qu'en mettant de côté toutes les polémiques qu'il y a pu y avoir et toutes les bonnes causes qui profitent du moment et de l'événement pour se manifester et se faire connaître, il y a quand même un truc qui passe pas. C'est tout simplement le fait que le Qatar est un tout petit pays. Et je pense que ça emmerde beaucoup de monde que ce soit un tout petit pays qui soit en capacité d'organiser la Coupe du Monde de foot. Quand il y a les JO...
Un tout petit et un jeune pays aussi.
Ouais, et un jeune pays, quand les JO ont lieu à Pékin, alors oui, il y a eu des manifestations, mais on s'est vite quand même repolarisé sur la compétition. Il n'y a pas si longtemps que ça, on était en Coupe du Monde en Russie.
Ouais.
On n'en a pas fait autant de caisses, même s'il y avait et s'il y a des soucis en Russie. Mais là, le simple fait que ce soit un tout petit pays qui a fait fortune et qui est riche, bah, ça dérange. Ouais. Ah non, laissons
aspect, il est tout aussi dérangeant. C'est le problème, c'est du délit de gagner du fric, quoi, en fait.
Ben oui, mais tant mieux pour eux. Pendant des siècles, ils n'ont pas gagné d'argent. Ils en gagnent aujourd'hui.
Il y a aussi de la corruption.
Oui, mais il n'y en a pas chez nous.
On reproche.
Il n'y en a pas en Russie, il n'y en a pas à Pékin, il n'y en a pas en France. De la corruption, il y en a partout.
De la corruption, il n'y a pas de famine.
Oui,
en fait, là où moi j'ai un problème avec le discours de Marc, c'est que. Effectivement, il y a sans doute une exagération sur le Qatar. Ah. Effectivement, on leur cherche des poux dans la tête qu'on n'a pas cherché aux précédentes attributions. Voilà. Mais une fois qu'on a dit ça, ça ne minimise pas totalement quand même les problèmes qu'il peut y avoir dans ce pays.
Non, mais pas du tout.
Et les campagnes de sensibilisation qu'il peut y avoir. Oui, mais j'ai l'impression qu'il n'y a plus que le discours de marque qu'on entend.
Non,
ça a été relayé. Ça a été suffisamment relayé. Donc, depuis 11 mois, la polémique, elle est nourrie. Et tout d'un coup, à compter de 17h, aujourd'hui, ça va laisser place à la glorieuse incertitude du sport.
Et il le faut que ça reste la place du sport.
Au football, aux acteurs de cette Coupe du Monde, aux joueurs, de faire en sorte que tous nous puissions vibrer. Alors bien sûr, encore une fois, je le répète, si l'équipe de France va loin en France, on vibrera, comme toujours, chaque fois que l'équipe de France va loin. Et puis si ça se passe dans d'autres pays, en Allemagne, au Brésil, eh bien la fête se fera partout dans le monde, au gré des résultats des équipes nationales.
Moi, ma petite conclusion, c'est indiscutable, il n'y a pas de souci.
Je vais vous donner ma petite conclusion, elle est très personnelle. On vit une période dans notre société, dans le monde, difficile, délicate à beaucoup dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de situations, le monde économique, c'est la guerre en Ukraine, etc., etc. On a la chance d'avoir cette Coupe du Monde qui arrive, qui démarre aujourd'hui, oui, dans un contexte particulier. Mais profitons de ce moment de sport et de ce moment de communion et de cohésion. Tout simplement un ballon qui va circuler sur un rectangle vert et on va tous se prendre au jeu. Et prenons-nous au jeu de la Coupe du Monde.
Et je préfère aussi mettre des gros guillemets, mais c'était aussi peut-être, et on terminera là-dessus, peut-être aussi un élément à mettre en lumière. Vous dites place au jeu, mais sur les réseaux sociaux, il y a eu pas mal de rumeurs, et notamment une rumeur comme quoi le Qatar aurait acheté l'Équateur. C'est évidemment une rumeur, ce n'est fondé sur rien. En tout cas, à l'heure où on
verra,
parle.
On verra.
Non, mais ce que je veux vous dire, c'est que si le Qatar gagne le match d'ouverture... Ah, ça peut être une fête, mais ça peut aussi soulever des polémiques. Voilà, je vous sers ça.
Non, mais j'y sais. Comment tu peux.
Non, mais. Pression le jeu.
Pascal Duprat.
Est-ce qu'on peut respecter les sportifs en Équateur?
Non, mais c'est hallucinant.
Est-ce que les Équatoriens peuvent le respecter? Franchement, des fake news, pareil. Comment vous faites pour les relayer? C'est pas possible.
Je suis mal à l'aise aussi.
Des garçons qui vont représenter leur pays. Tout d'un coup, pour quelques milliers de dollars ou millions de dollars, ils vont se coucher pour le match d'ouverture. Le match qui, avec la finale, est le plus suivi dans le monde. Le plus retransmis dans le monde. Pourquoi on peut relayer des conneries aussi monstrueuses?
100% d'accord avec toi.
Bravo Pascal.
Ok. Là, j'y sais, tu t'es fait secouer là.
Non, il est passé à travers les cordes.
Donc, les lignes éditorialistes à partir de 17h, fatalement, elles vont être modifiées. Les journalistes, vous allez concentrer la majeure partie de votre couverture au match, aux résultats, aux faits qui se passent sur le terrain. Donc, fatalement, place au sport, place au football, et puis un peu en retrait les polémiques que vous reprendrez ensuite après le mondial.
Oh, j'ai pris Pascal Duprat plein fer, je peux vous dire, ça fait pas du bien.
Faire 7.
Oui, je suis d'accord, je suis moins rugby, je suis beaucoup plus golf. Merci beaucoup mon Pascal. Je vous donne quand même le résultat du sondage pour savoir qui s'est imposé. J'ai envie de donner...
Je suis sûr qu'on a gratté un peu.
Oui, vous avez gratté un peu. Vous avez gratté un peu. On est à 67%, pas une fête, 33% pour une fête. Donc oui, vous avez gagné un petit pourcent.
Et qui a voté?
Mais qui a voté? Des gens qui nous écoutent, des fidèles.
Oui.
Des
gens ma famille, visiblement.
Forcément, des millions d'auditeurs.
J'ai oublié de voter.
Ta femme, oui, parlons-en de ta femme. On va en parler dans quelques instants. On remercie Jean-Louis Tour d'avoir été avec nous dans les grandes gueules du sport ce matin. Merci Jean-Louis.
Bonne fête.
On te retrouve à partir de 16h, Jean-Louis, en direct sur RMC. Hein.
Oui, va bosser.
16h l'intégrale Coupe du Monde, la cérémonie d'ouverture, Qatar-Équateur ensuite avec Jeannot Rességuier au stade et Nicolas Jamin sera là toute l'après-midi pour la montée en puissance vers le début de cette Coupe du Monde pour aller chercher nos différents envoyés spéciaux. Il y a un dispositif énorme un peu partout et on va vous faire vivre cette fête si elle existe.
Bien sûr, l'appel à la cantine, c'est la petite musique que vous entendez pour Jean-Louis Tour, notre grande gueule en direct du Qatar pendant toute la Coupe du Monde. Merci, je t'embrasse très fort. Mon Jean-Louis, on se retrouve dans quelques instants. Christophe Cessieux, comme Karim Benzema, a dû déclarer forfait. Stephen Brown aussi a dû déclarer forfait aujourd'hui. Merci Marion d'être venu avec nous. Christophe Cessieux n'est pas là, mais il nous a laissé son bonbon du dimanche. Les Bleus de 78, les Bleus regoutent à la Coupe du Monde. C'est dans quelques instants, à tout de suite.
RMC, les grandes gueules du sport. 9h midi.
Jean-Christophe Drouet.
11h34, heure française, 13h34 à Doha, de retour dans les grandes gueules du sport. Votre rendez-vous le samedi, le dimanche de 9h à midi, c'est le grand jour avec le match d'ouverture de cette Coupe du Monde au Qatar à 17h, la rencontre entre l'Équateur et donc le pays hôte. Le Qatar, toujours avec Marion Bartoli, Pascal Duprat, Marc Madio, antenne évidemment particulière durant un mois, dispositif exceptionnel sur RMC, mais on ne rate pas et on ne manquerait pour rien au monde nos bonnes habitudes dans les GG tous les dimanches. Aux alentours de 11h30, Christophe Cessieux nous conte un moment d'histoire.
Les GG.
Restez donc surtout en piste, Fangio et Brooks. Mais Fangio devait l'emporter.
Les avants français ressortent le grand jeu, Dwyss en tête. Dwyss, c'est le pelé de l'équipe française.
C'était mieux avant.
Je le disais, Christophe n'est pas avec nous, mais il a tenu à nous laisser son petit bonbon. Il y a 44 ans, les Bleus retrouvent les joies de la Coupe du Monde en Argentine.
Ce 2 juin 1978, le Stade José María Minella a de forts accents italiens. Situé à 400 km au sud de Buenos Aires, Mar del Plata est considéré comme la capitale transalpine de l'Argentine, le fief des descendants d'immigrés du 19e siècle. Des Italo-Argentins venus en masse soutenir la Squadra Azzurra et sa jeune star Paolo Rossi, dont les ambitions sont immenses dans ce Mondial 78 qui débute. Face à eux, de jeunes coquelets aux cheveux longs qui tous découvrent ce jour-là ce qu'est une Coupe du Monde. Et oui, car depuis 12 ans et un séjour pour le moins bref en Angleterre en 66, la France n'est plus jamais parvenue à se qualifier pour une phase finale, que ce soit de l'Euro ou de la Coupe du Monde. Alors, on ne donne pas cher des chances des Bleus qui, de leur côté, n'ont que faire des pronostics. En 2 ans, sous la houlette du nouveau sélectionneur Michel Hidalgo, ils ont redonné des couleurs au football français. Une aventure qui débute un jour de mars 76 face à la Tchécoslovaquie, où pour son premier match à la tête de la sélection, Hidalgo fait appel à un jeune garçon prometteur venu de Lorraine.
Parmi ces nouveaux, on attendra beaucoup ce soir de celui dont on parle le plus depuis des mois. Michel Platini, 20 ans, promis à un bel avenir et qui fera ses grands débuts en équipe nationale.
J'ai un peu d'appréhension, mais je pense que c'est tout à fait naturel, mais je crois que je vais m'en sortir.
Coup franc en deuxième mi-temps, Henri Michel, qui était le tireur d'élite de l'équipe de France, et le capitaine en même temps, il prend son élan, il arrive vers lui, il dit « donne-moi le ballon, je marque ». Henri Michel le prend de haut et qu'est-ce que c'est que ce morveux là qui arrive, qui veut déjà. Et là, donne-moi le ballon, tu veux le ballon. Il lui donne.
Vous allez voir, le numéro 8, c'est Platini, le 6, c'est Michel, une petite passe. Et voilà, un but superbe, une belle confiance et un beau premier but pour ce jeune international que l'on reverra très certainement souvent avec le maillot frappé du coq.
Le premier coup de patte d'une longue série pour Platoche qui, 7 mois plus tard, récidive à Sofia, derrière le rideau de fer, où les Bleus viennent affronter les redoutables Bulgares lors du premier match de qualification pour le Mondial. Platini frappe le premier, bientôt rejoint par Lacombe qui inscrit le but du 2-0. Les Français sont euphoriques, mais ils déchantent vite lorsqu'en deuxième mi-temps, les Bulgares reviennent au score. Il ne reste alors qu'une poignée de minutes à jouer. Les deux équipes sont à égalité de partout lorsqu'un arbitre écossais, dénommé Monsieur Foot, ça ne s'invente pas, va jouer du sifflet et se prendre un retour gratiné de la part de Thierry Roland, à l'époque commentateur sur Antenne 2.
À la 88e minute, il y a un Bulgare qui se laisse tomber dans la surface et là, il donne pénalty.
C'est pas vrai ! Oh ! Ah, c'est pas croyable qu'il accorde pénalty là-dessus ! Mais c'est invraisemblable, à 3 minutes, 2 minutes de la fin de la partie. Alors ça, je n'ai vraiment pas peur de le dire, Monsieur Foot, vous êtes un salaud. Il n'y a pas d'autre mot.
Et comme si ça ne suffisait pas, j'ai dit qu'il fallait lui réserver d'urgence une cellule dans la prison fédérale d'Édimbourg.
À côté ! Eh bien, il y a un bon Dieu, croyez-moi ! Quel scandale cet arbitrage, c'est invraisemblable. Jamais vu un individu pareil. Il devrait être en prison, pas sur un terrain de football.
Une phrase restée dans la légende. En attendant, les Bleus ramènent un point précieux de Sofia qu'ils entendent bien faire fructifier lors de leur double affrontement face à la République d'Irlande.
Bon Michel, à chaque fois que vous avez joué avec l'équipe de France, vous avez marqué un but pratiquement, un but sur coup franc à chaque fois.
Ah oui, c'est heureux et c'est malheureux parce que maintenant je suis un peu l'homme des coups francs et puis si je vais louper un contre l'Irlande, ben, je décevrai beaucoup de gens.
Giles, dépossédé du ballon pour Platini, peut-être le but. Une faute de Giles et un but réussi par Platini qui n'a pas laissé passer l'occasion.
L'arbitre demande le ballon et siffle la fin du match qui se termine donc par la victoire de l'équipe de France 2-0. 3 points donc pour l'équipe de France en tête de son groupe en Coupe du Monde. Pourvu que ça dure, tout va bien pour l'instant. La décision se fera l'année prochaine en 1977.
Et 77 sera du même tonneau. Après une première victoire face à ces mêmes Irlandais à Dublin, ils s'en vont à Rio affronter les magiciens brésiliens de Paulo César et Rivellino au Maracana. Didier Six faisait partie de la bande.
Dans ce stade, 140 000 spectateurs qui crient Francia, Francia. Nous qui étions tout gamins, quand on était la petite équipe de France qui essayait de remonter, ça a été impressionnant. C'était le début de quelque chose de grand.
Six, tire et baisse. À pleine course, Six sur cette passe de Platini réussit un but canon absolument magnifique en position d'avancante qui remet la marque à 2 buts à 1.
C'est pas un but de construction, c'est un but d'instinct.
Trésor sur ce corner. Trésor égalise à 11 minutes de la fin. D'un coup de tête en pleine lucarne. Eh bien, magnifique capitaine. Bravo Marius.
On réussit à faire une seconde mi-temps, on fait un 2 à 2. Tout ça nous met sur de bons rails pour l'avenir.
Et l'avenir en 77 se nomme à nouveau Bulgarie. Ce soir de novembre, c'est le dernier match de qualification pour la Coupe du Monde. Le vainqueur du jour partira en Argentine, son battu restera à quai. Le Parc des Princes est comble, les Bleus se découvrent de nouveaux et fervents supporters. Après s'être heurté durant plus d'une demi-heure au jeu fermé des Bulgares, Dominique Rocheteau, l'ange vert, délivre les Bleus.
Rocheteau marque à 7 minutes de la mi-temps. Le but qui va sans doute libérer l'équipe de France.
Puis c'est au tour de Platoche de régaler le parc.
Platini tire. Le voilà, le deuxième but de Platini. Eh bien Michel, je te remercie au nom de tout le monde pour ce
merci
but
Michel, clame Thierry Roland. Les Bleus vont pourtant se faire une dernière frayeur lorsque les Bulgares réduisent l'écart, mais à quelques instants du coup de sifflet final, Christian Dalger libère l'écart.
Voilà. Dalger à la dernière minute de la partie. Alors
la folie s'empare du parc, les Bulgares devront attendre 16 années supplémentaires avant de nous empêcher de franchir l'Atlantique. Quant à Michel Hidalgo, en pleurs et capuchant la tête, il est porté en triomphe par ses hommes. L'Argentine s'offre à l'équipe de France. C'est tout un pays qui rayonne.
Partout dans la presse ce matin, des louanges qui courent à longueur de première page. Pour l'Aurore, par exemple, ils ont bien mérité l'Argentine. Pour le Figaro, l'équipe de France en Argentine par la grande porte. Pour l'équipe, la France en Coupe du Monde après 12 ans d'amère pénitence. Pour l'humanité, victoire méritée des tricolores. Pour le Parisien libéré, magnifique victoire hier soir. Pour le matin, une qualification sans contestation. Et pour François, un 11 de France magnifique.
Est-ce qu'on peut dire qu'en 1977, il y a en France des nouveaux footballeurs comme il y a des nouveaux philosophes?
Je ne connais pas la valeur des nouveaux philosophes. Ce que je suis sûr, c'est de la valeur des nouveaux footballeurs.
Le sélectionneur, qui a quelques jours du départ pour Buenos Aires, va pourtant connaître une drôle de mésaventure.
Aussi là.
Toujours dans le domaine des faits divers, il y a l'incroyable tentative d'enlèvement contre l'entraîneur de l'équipe de France de football.
Mais on m'a demandé de descendre et de suivre quelqu'un qui me menaçait avec un pistolet. Il y avait ce revolver dans le dos et je pensais qu'il me restait que peu de temps à vivre. J'ai attrapé le canon du revolver et j'ai réussi à le reprendre. Il est tombé par terre, je l'ai repris avant lui et quand il a vu ça, il s'est sauvé.
Quelques instants après cette agression, vous avez été tellement surpris, abattu, que vous avez un moment songé à renoncer au voyage en Argentine.
Dans ce cas-là, on se demande où est le sport et je n'y voyais plus d'intérêt. Et cette grande joie du 16 novembre s'estompait, s'effaçait d'un seul coup. Et je me suis dit, c'est pas la peine d'aller en Argentine.
Dans un coup de téléphone anonyme, un correspondant a revendiqué cette agression effectuée selon lui pour attirer l'attention sur l'hypocrite complicité de la France qui fournit du matériel militaire à l'Argentine.
L'Argentine, qui en cette fin des années 70 vit sous la main de fer du sinistre général Videla. Sous son règne, ce sont près de 30 000 Argentins qui trouveront la mort pendant que des milliers d'autres subiront la torture dans les geôles du pays. Et à l'image de ce qui se produit aujourd'hui, l'opinion publique est vent debout contre cette Coupe du Monde au pays de la dictature. Même dans les rangs des Bleus, certains hésitent à se rendre à Buenos Aires.
C'est un cas de conscience personnelle. Il y avait un seul joueur était en train de tâtonner, j'y vais pas, c'était Dominique Rocheteau.
Pourtant, comme les autres, la star stéphanoise décidera d'aller disputer cette Coupe du Monde qui débute donc pour les Bleus le 2 juin 78 face à l'Italie. Ce jour-là, la France frappe
après. Première minute de jeu, Bernard Lacombe surgissait sur un centre de Six et parvenait à donner l'avantage à la France.
Malheureusement, la suite sera moins rose. Les Bleus s'inclinent 2 buts à 1. Pour espérer voir la suite de la compétition, il leur faut battre l'Argentine de Kempes. Mission impossible. Il en va de l'honneur de la dictature et malgré un match énorme, les Français sont vaincus par l'Albicéleste et l'arbitre suisse de la rencontre.
Il aurait pu siffler aussi, mais il n'a pas sifflé. C'est l'éternelle histoire de l'arbitre qui arbitre l'équipe locale dans une Coupe du Monde. Et ça, on ne peut pas y faire grand-chose.
L'Argentine gagne 2-1, alors que ce jour-là, si elle perd... Et l'Argentine aurait été éliminée, ce qui paraissait impossible. Quoi. C'était l'Argentine des généraux, quoi. On était en pleine dictature militaire. L'Argentine ne pouvait pas être éliminée au premier tour, c'était pas possible.
Les Bleus sont éliminés, mais avant de rentrer au pays, il leur reste un dernier match à disputer face aux Hongrois, pour l'honneur. Une rencontre que les Bleus ont bien failli perdre avant même de débuter, une histoire rocambolesque.
C'est une heure avant le match, quoi. Les types sortent des vestiaires en survêtement et il y a Hidalgo qui vient à côté de nous. Et je lui dis, Français, il joue en quelle couleur aujourd'hui? Et Hidalgo me répond, ah, il joue en blanc. Alors je lui réponds aussi sec, je lui dis, tiens, bah, ça va faire un match marrant, parce que les Hongrois aussi, ils sont en blanc. Oh, il me dit, mais oui, merde, t'as raison. Et il part comme une fusée, et c'est le début de l'aventure.
Les intendants des Bleus partent alors un dimanche après-midi dans Mar del Plata, en quête de maillots de substitution. Une demi-heure plus tard, ils reviennent au stade avec de drôles de tuniques.
Finalement, on tombe sur un jeu de maillots d'équipe de pêcheurs, qui étaient des maillots rayés verticalement vert et blanc. Pas très grand en plus, c'était pour des jeunes.
J'avais vu l'équipe de France aussi musclée. Les maillots, les serrés, on voyait les pectoraux, on voyait tout.
Mais imaginez un petit peu la tribune de presse de la Mondiovision. Les mecs du monde entier qui étaient là pour commenter ce match. Et qu'il y avait des types qui avaient un qui avait le 7 dans le dos et le 14 sur le short.
Et pendant ce temps-là, c'était la première fois que c'était retransmis par satellite, ça coûtait une fortune. Chaque seconde coûtait de l'argent.
Si la FIFA avait fait payer ce que ça a coûté en satellite, la fédération était ruinée. Hein.
Comme on avait les maillots du club, tout le stade était pour nous. C'était le club local. Et on a tellement fait un bon match, on a battu 3-1 la Hongrie, qu'on nous a enlevé l'amende qui devait mettre la fédération sur la paille.
Si la fédération, ce jour-là, l'a échappé belle, le football français ressortira, lui, grandi de cette aventure argentine. À Mar del Plata et à Buenos Aires, cette année-là, une équipe est née. Durant les 8 années qui suivront, elle ne fera que grandir, connaissant quelques cuisantes défaites, comme à Séville en 82, mais aussi des lendemains qui chantent et un premier trophée obtenu en 84 dans un parc des Princes devenu le Jardin des Bleus. C'est de cette époque que date la ferveur des supporters français pour leur équipe nationale, ce maillot bleu frappé du coq qui, 44 ans plus tard, continue aujourd'hui d'enchanter petits et grands.
Merci Christophe Cessieux qui n'était pas là aujourd'hui, il a dû déclarer forfait pour l'émission, mais il tenait à vous faire partager, vous les grandes gueules, chers auditeurs, ce début de l'aventure pour cette équipe de France 78, il y a eu 82, il y a eu 90, 86 et puis évidemment 98 et puis on connaît l'histoire, on l'espère. Pour 2022, une magnifique équipe de France. On se retrouve dans quelques instants pour la suite des grandes gueules du sport. C'est à vous de jouer, les auditeurs. Le 32-16, vous n'êtes pas d'accord avec une GG sur un thème du jour. C'est très simple, vous venez lui dire. A tout de suite sur RMC.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h51, de retour dans les grandes gueules du sport. La dernière ligne droite à partir de midi, les paris RMC autour de France-Australie. C'est mardi, on va vous donner toutes les cotes évidemment. Et puis on pariera sur le match d'ouverture, le Qatar face à l'Équateur. C'est tout à l'heure à 17h. Mais tout de suite, c'est à vous les auditeurs.
RMC,
les grandes gueules du sport et vous.
Nicolas nous appelle au 32-16. Salut Nicolas.
Allez, bonjour à tous, bonjour les grandes gueules.
Nicolas, tu veux t'attaquer à qui ce matin?
En fait, j'ai pas forcément envie de m'attaquer à quelqu'un de précis parce que de tout ce qu'on a entendu, bah, je pense que il y a des choses qui font résonance pour tout le monde et tout le monde a un peu raison et tort, puisque être enthousiaste pour cette Coupe du Monde, en fait, on l'est pas vraiment pour tout ce qui entoure cette Coupe du Monde. Entre le non-respect des droits humains, la condition de travail désastreuse des ouvriers sur la construction des stades, le coût écologique qui est catastrophique, les soupçons de corruption, enfin bref, franchement, il y a un gros package. Le contexte en plus de réchauffement climatique fait que le sportif a été mis un peu de côté. On a parlé de cette Coupe du Monde d'une manière assez désastreuse. Bon, après, on peut pas cacher quand même tous ces arguments hein, qui de notre côté, quand on voit tout ce que l'on doit faire dans la vie de tous les jours, bon, ça a quand même un fort impact. Donc du coup, c'est vrai que par rapport à tout ce que on dit les grandes gueules, bah, ces côtés négatifs prennent vraiment le pas. Hein. Franchement, je suis un gros fan de foot, mais c'est vrai que le sportif a été mis beaucoup trop de côté. Et je suis pas forcément enthousiaste, quoi. Je vais pas la boycotter, hein, parce que c'est pas une solution, je pense pas, hein. Mais c'est vrai que on n'attend pas cette Coupe du Monde d'une manière vraiment trop importante. Puis en plus, bon, on peut pas oublier le fait qu'elle se déroule durant l'hiver, hein. Or, du point de vue européen, ça bouscule un peu le calendrier habituel, ce qui fait qu'en fait, ce malaise, il éclate au grand jour. Et je vais regarder les matchs de l'équipe de France. Ça c'est sûr. Hein. En plus, on est tenant du titre, c'est quand même super important. Et même le Qatar qui va rencontrer l'Équateur en match d'ouverture aujourd'hui, franchement, ça va me passer au-dessus. Puis en espérant que nos petits bleus aillent jusqu'au bout, mais l'enthousiasme, franchement, il n'y est pas, quoi.
Ok. C'est important de le dire et c'est un témoignage important dans cette émission. Les GG sont enthousiastes plutôt à l'idée de cette Coupe du Monde, mais il faut que on rentre dans la compétition pour croquer dedans et on attend encore un petit peu. Et Nicolas, en tout cas, tu pourras nous suivre sur RMC. Nous mettrons évidemment beaucoup de passion autour de cette Coupe du Monde. Merci pour ton témoignage. Thierno nous appelle également. Bonjour Thierno.
Oui, bonjour. Bonjour.
Thierno. Thierno, c'est pas parce que t'as un prénom bizarre comme moi qu'il faut pas citer mon prénom, d'accord?
J'ai failli dire Jean-Michel, c'est pour ça.
Oui, alors sache que j'ai l'habitude, hein, Jean-Claude, Jean-Michel. Sache que, pour la petite anecdote, pendant 2 ans, j'ai fait croire à Maryse, enfin, je l'ai laissé m'appeler Jean-Claude. Juste pour qu'un jour, à Maryse et Vangépé, que j'embrasse, juste pour qu'un jour, elle se rende compte qu'en fait, elle disait Jean-Claude depuis 2 ans. Voilà. Ça, c'est pour la petite anecdote. Vas-y, Thierno, tu veux t'attaquer à qui?
Pas à personne.
Oh,
pas
non,
personnellement. Non, si, un petit peu. J'adore Marion, hein, mais franchement, tout à l'heure sur le capitanat de
le brassard arc-en-ciel du Gonyori, c'est ça.
Voilà.
Vas-y, t'écoutes.
Moi, je pense qu'en fait, on est en train de politiser le sport. On est complètement, on passe à côté du sport, de l'essence même du sport. Là, on est en train de mêler à Hugo sur les déclarations qu'il a tenues que lui. C'est pas lui qui décide de porter un brassard jaune, rouge ou vert. Il a une institution au-dessus de lui. Il y a la FIFA. Et derrière, lui, il a une famille. Donc lui, il peut pas se mettre à dos ses coéquipiers déjà parce qu'il y a un groupe. Il faut respecter. Si Hugo met un brassard que tout le groupe n'est pas d'accord, il y a un problème. Si la fédération n'arrive pas à prendre vous avez compris, autour de ses mains pour donner une décision, pour dire ce que le groupe doit faire, c'est pas à Hugo de prendre la décision, lui, de porter cela. Ça, c'est des causes vraiment qui me tiennent à cœur, mais il faut lutter contre ça tous les jours. Avant l'attribution de la Coupe du Monde, depuis que la Coupe du Monde a été attribuée, on sait ce qui se passe au Qatar, on sait les gens qui meurent dans les chantiers, on sait que c'est pas un pays qui est ouvert à l'homosexualité, à toutes ces minorités-là, mais on ne dit rien. Et aujourd'hui, on va aller faire la Coupe du Monde, et au lieu de parler de sportifs, on parle des éclats de par-ci, de par-là, on pollue tout ça. Moi, je trouve la cause, c'est normal qu'on parle de ces minorités-là, mais quand on va finir la Coupe du Monde, qu'est-ce qu'il va en rester?
Ok, merci Thierno en tout cas pour ce témoignage. Pas forcément de réaction, vous avez pu vous exprimer les GG. Et puis ça m'arrange bien parce que là j'ai plus le temps. Merci Thierno d'avoir composé le 32-16. Et on se retrouvera dans les grandes gueules du sport à partir de 9h samedi prochain. Évidemment, quasiment consacré à ce mondial au Qatar. Il y aura le match de l'équipe de France, le deuxième match à ce moment-là. Le week-end prochain, ce sera samedi. Merci Marc Madio, merci Marion Bartoli,
merci,
d'avoir remplacé au pied levé comme ça Stephen Brun et Christophe Cessieux, t'es capable de remplacer. ces deux grandes gueules à toi toute seule. Et merci également à Pascal Duprat. Je vous embrasse.
Merci,
mes GG. Je vous embrasse, chers auditeurs. Merci également à Pierre Amiche à la production, Alban Azaïs à la réalisation et le Qatar au Saint-Émilion. On se retrouve dans quelques instants pour les paris RMC à partir de midi. Restez bien avec nous, à tout de suite.
Les paris RMC.